Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Marie de Rabutin Chantal, marquise de Sévigné, 1626-1696. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celle qui a écrit plus d'un millier de lettres, de celle qui a été très jeune, une veuve farouchement indépendante, de celle enfin qui aimait intensément sa fille. Sur les quelques images que l'on a d'elle, Madame de Sévigné est souvent représentée avec son collier de grosses perles ras du cou et les pendants d'oreilles assortis. Ils sont un signe de reconnaissance, comme sa chevelure, aux parfaites anglaises, retenue en deux lourdes mèches qui lui font comme deux drôles de couettes de chaque côté du visage. On est en plein grand siècle, et les robes opulentes et décolletées sont piquées de nœuds et de rubans. Sur les portraits, volontiers cruels, ce n'est pas la jeune fille que l'on voit, mais la veuve ou la mère dans sa maturité. Le visage est épais, les joues pleines, la chair pâle, et le double menton rarement atténué, même si le regard est toujours doux. Parfois, sur les gravures, on lui voit les bras. Elle est en tenue d'intérieur et alors elle est représentée la plume à la main, comme surprise dans l'écriture. Mais il y a aussi des sculptures romantiques où on la voit plus jeune, plus mince, assise, la plume suspendue dans l'air, les feuilles posées sur ses genoux, rêveuse ou pensive. Car Madame de Sévigné a été avant tout une femme qui pense. Et 320 ans après sa mort, il suffit de la lire pour en être persuadée. Madame de Sévigné, dans les petits papiers du grand siècle, un documentaire de Christelle Le Polothek réalisé par Ghislaine David.
Alors là, vous avez Henri de Sévigné, le mari de Madame de Sévigné. Là, c'est La Rochefoucauld. Et sa petite amie, Madame de Lafayette. Là, vous avez Madame de Grignan, sa fille.
La fille.
Alors, il y a le même portrait, ou à peu près le même, à Carnavalet. Alors, Carnavalet dit qu'ils ont l'original, et moi je dis que c'est le mien, parce que celui de Carnavalet n'a pas de... Il manque un bras. Hein? Alors là, vous avez la mère de Madame de Sévigné, et puis son père.
Et ça, c'est donc la dernière. C'est la grand-mère, c'est ça?
C'est la grand-mère, oui. Dont on a fait une scène, j'ai jamais compris pourquoi.
Vous savez, quand j'étais à l'école, on apprenait encore parmi les récitations, les fables de La Fontaine et autres, et je me rappelle avoir réciter une lettre de Madame de Sévigné. Une lettre où il est question du carrosse versé de l'archevêque de Reims. Et, enfin, une lettre assez célèbre. Et on apprenait ça et on récitait ça.
Madame de Sévigné, dans les petits papiers du grand siècle.
Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie. Enfin, une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés. Encore cet exemple n'est-il pas juste ? Une chose que nous ne saurions croire à Paris. Comment la pourrait-on croire à Lyon? Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde. Une chose qui comble de joie Madame d'Oran et Madame de Hauterive. Je ne puis me résoudre à la dire. Devinez-la. Je vous le donne en trois. Jetez-vous votre langue au chien. Eh bien, il faut donc vous la dire. Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre. Devinez qui?
Lecteur contemporain inattentif, les lettres de Madame de Sévigné, lues et relues depuis presque 300 ans, n'offriraient guère plus que le charme désuet d'un ouvrage édifiant pour pensionnat de jeunes filles. Eh bien, il se tromperait lourdement. Publié en 1726, 30 ans après sa mort, la correspondance de Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, a offert au regard du monde, dont elle craignait tant le jugement, son intimité, ses élans d'amour envers sa fille, mais aussi son humour, ses médisances, ses traits d'esprit, sa plume acérée et l'hypocrisie nécessaire à la survie en ce bas monde. Cet enfant chéri du Marais, qui a fréquenté les frondeurs, mais s'est prêté de bonne grâce au rite de la cour de Louis XIV, est aussi une chroniqueuse infatigable du grand siècle. Depuis les extravagantes fêtes données au château de Chantilly, jusqu'au journal détaillé du procès de Fouquet. Place des Vosges, devant l'hôtel de Coulanges, dans le Marais à Paris, avec Anne Forêt Carlier.
On est au début de l'histoire de celle qui va devenir la célèbre marquise de Sévigné. C'est l'hôtel bâti par son grand-père, du côté maternel, donc de la famille de Coulanges. Un hôtel qu'il a bâti au moment où se construisait cette place royale. Une place qui témoigne justement des premiers efforts d'urbanisation de la capitale et qui va un petit peu rassembler toutes les familles d'importance de l'époque et qui notamment jouera peut-être un peu un rôle lors de la Fronde. Et donc Philippe de Coulanges, le grand-père maternel de Madame de Sévigné, construit, il achète une vaste parcelle puisque cette parcelle, elle occupe un angle de la place actuelle des Vosges, à la fois donnant donc sur la place et sur la rue de Birague. Cet hôtel lui permet d'avoir 12 fenêtres en façade, ce qui montre l'importance quand même de la famille de Coulanges, une famille qui est partie pratiquement de rien. Elle est originaire d'Auvergne et c'est un enrichissement récent de cette famille, argent gagné dans les fournitures aux armées. Il s'installe, une fois l'hôtel construit, avec l'ensemble de la famille. Mais ça va permettre à la jeune Marie de Rabutin Chantal de pouvoir s'épanouir dans un milieu familial extrêmement chaleureux. Elle est entourée de tous ses cousins. Elle devient orpheline très tôt puisqu'elle perd son père en 1627 et sa mère en 1633. C'est donc véritablement la famille de Coulanges qui va assurer l'éducation de l'enfant puis de la jeune fille.
Elle a quel âge quand elle perd ses parents ?
Alors, elle naît précisément place des Vosges, place royale, le 5 février 1626. Elle a un an et quelques, un an et demi. Et c'est ça qui est assez intéressant dans l'histoire du début de l'existence de la marquise de Sévigné, c'est que finalement, c'est vraiment tout le côté maternel qui s'est emparé de la jeune demoiselle, alors que le côté paternel, Rabutin, est resté très au second plan, tout simplement parce qu'ils avaient vu une mésalliance dans le mariage de mademoiselle de Coulanges avec Cels Bénigne de Rabutin. La famille paternelle a été tenue à l'écart.
C'est vrai que le mariage des parents de Madame de Sévigné avait été légèrement scandaleux puisque son père, Cels Bénigne de Rabutin, était
Stéphane Gautier,
le chef de nom et d'armes d'une ancienne famille bourguignonne du même rang que les Sévigné en Bretagne. En revanche, les Coulanges, donc la famille maternelle de Madame de Sévigné, correspondent à une famille nouvellement enrichie. Les Coulanges sont à l'origine, je dirais, de l'esprit de Madame de Sévigné, puisque c'est grâce à eux, grâce à son oncle Philippe II de Coulanges et à sa tante Marie Lefèvre d'Ormesson, qu'elle va avoir une éducation très sophistiquée. Elle sait évidemment le français, mais aussi les mathématiques, le latin. Elle apprend l'italien et l'espagnol. Donc c'est cette éducation qui va ensuite lui permettre de briller dans les salons parisiens. Et c'est d'ailleurs par sa tante, la comtesse de Coulanges, qu'elle est introduite dans les premiers salons, et avant tout dans le salon de sa tante.
Sévigné ne devient pas écrivain du jour au lendemain, elle ne se découvre pas écrivain le jour où sa fille part pour la Provence en 1671. Elle a sans doute eu des professeurs, des maîtres particuliers.
Nathalie Frédel.
Et puis ensuite, il y a une espèce de formation permanente qui prend le relais pour les femmes. À la fois, elles s'éduquent elles-mêmes et puis elles poursuivent cette éducation, donc par la lecture, par la vie en société. Elle s'est intégrée dans l'entourage des Plessis-Guénégaud, à l'hôtel de Nevers, un cercle fréquenté par les écrivains, fréquenté par les beaux esprits. Scudéry fait un portrait d'elle dans Clélie, qui déjà lui donne une stature. Elle est déjà un personnage dans la littérature de l'époque. Elle se lie avec Madame de Lafayette, donc qui est une de ses amies les plus anciennes, avec La Rochefoucauld. On la retrouve dans l'entourage de Fouquet. C'est La Fontaine, c'est Pélisson, un milieu en ébullition. On récite des vers, on écoute encore et encore donc les pièces de théâtre, c'est Corneille, c'est Molière. Elle connaît le répertoire de Molière par cœur. C'est une culture vivante. C'est pas la culture des hommes, c'est pas la culture des collèges jésuites. C'est une culture moderne. Et là, en fait, on est dans une période de transition où les cloisons entre le monde des savants et puis ce qu'on appelle les mondains sont de moins en moins étanches, c'est moins rigide. Et elle profite de ça.
Madame de Sévigné a d'ordinaire le plus beau teint du monde. Les yeux petits et brillants, la bouche plate mais de belle couleur. Le front avancé, le nez semblable à soie, ni long ni petit, carré par le bout, la mâchoire comme le bout du nez. Tout cela, qui en détail n'est pas beau, est à tout prendre assez agréable. Elle a la taille belle sans avoir bon air, elle a la jambe bien faite, la gorge, les bras et les mains mal taillées. Elle a les cheveux blonds, déliés et épais. Il y en a qui disent que pour une femme de qualité, son caractère est un peu trop badin.
Cécile Lignereux.
Le badinage, Madame de Sévigné le maîtrise à merveille. Toute sa jeunesse, elle était, c'était une femme très courtisée, pleine d'esprit, une femme très appréciée. Les lettres à Ménage, les lettres à Bussy-Rabutin, les lettres à Madame de Lafayette témoignent cette jeunesse brillante.
Est-ce qu'on peut dire d'elle que c'est une précieuse ou...
Oui, on la retrouve dans le dictionnaire des précieuses. Elle a son portrait dans Clélie. La préciosité, mais dans le meilleur sens du terme, évidemment, c'est pas la préciosité ridicule de Molière, c'est la préciosité dans le sens où c'était le moyen pour les femmes de se mettre dans une posture d'intellectuelle, qui n'était pas celle de l'amante, qui n'était pas celle de la mère de famille, ou qui a renouvelé de manière importante l'image de la femme.
En réalité, elle raconte des potins.
Yvelin de Ternay,
de l'époque,
au château des Rochers.
Du temps de Louis XI, il y avait Philippe de Comines, et puis avant, il y avait eu Joinville avec Saint-Louis. Il racontait aussi les histoires, mais on ne les lit plus, hein. C'est juste fait pour les historiens. Tandis qu'elle, on la lit parce que c'est un petit peu le canard enchaîné de l'époque. Elle aimait raconter les bobards. Elle les écrivait d'une manière tout à fait délicieuse. De tout ce que je sache, c'est la première qui s'y est intéressée, c'est mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère aimait ça, parce qu'elle était mondaine, elle aussi. Et après, ma mère n'aimait pas trop, parce qu'elle n'aimait pas les visiteurs, ça la dérangeait, mais depuis, on s'en est habitué. Bon, dans cette famille, si vous voulez, les enfants qui sont nés là trouvent ça naturel, mais les pièces rapportées, moins.
Elle se marie en août 1644 à l'église Saint-Gervais à Paris.
C'est un mariage nocturne, comme c'est l'usage.
Oui, le mariage a lieu de nuit pour éviter ce qu'on appelle le nouage de l'aiguillette, c'est-à-dire que le diable s'invite à la noce et que la femme, pour être très simple, porte la culotte dans le mariage. Donc c'est encore une croyance populaire qui est empreinte aussi d'un certain snobisme. Donc 7 années de mariage avec Henri de Sévigné, un mariage qui est somme toute heureux, hein, comme l'écrit Roger Duchesne, c'est une atmosphère quasi rabelaisienne qui règne dans leur hôtel particulier de la rue des Lions dans le Marais, si ce n'est que le couple ne se trouve pas véritablement. Madame de Sévigné écrit qu'elle aime son mari mais ne l'estime pas, que lui l'estime mais ne l'aime pas. Donc finalement ils ne se sont jamais véritablement trouvés. Et donc ce mariage est de courte durée puisque Henri de Sévigné va décéder des suites des blessures que lui inflige assez involontairement le chevalier d'Albret lors du duel qu'ils ont en 1651.
Nous sommes arrivés devant la maison occupée par la marquise de Sévigné après son mariage. Alors aujourd'hui, la façade de la maison, c'est une façade qui ouvre par 4 fenêtres et qui a été surélevée au XVIIIe siècle. La façade d'ailleurs a été rhabillée au XVIIIe siècle. Mais nous sommes vraiment là, au pied, si je puis dire, des fenêtres qui furent les siennes. Dans ce logement qu'elle a occupé donc à partir de son mariage, elle se marie en 1644 avec Henri de Sévigné. Henri de Sévigné, il appartient à une noble famille de Bretagne, un beau parti, un élégant jeune homme. Il sera d'ailleurs relativement infidèle. Les époux, très vite après la naissance de leurs 2 premiers enfants, vont être voir leur statut matrimonial modifié pour séparer les biens entre la marquise de Sévigné et son époux Volage. Et celui-ci, de toute façon, meurt en duel très, très vite après la naissance du second enfant, Charles de Sévigné. Alors c'est dans cette maison, justement, que naît celle qui va devenir la fameuse comtesse de Grignan et qui est l'origine de cette correspondance abondante qui a occupé la mère et la fille tout au long de leur existence. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'il ne faut pas imaginer que le jeune couple a habité cette maison toutes les années entre 1646 et son départ, 51. Oui. Elle a séjourné de nombreux mois au Rocher, qui est véritablement la demeure bretonne du couple. Et c'est d'ailleurs là que naît le second fils, Charles, né au Rocher.
Donc là, en plus, on est sur une... on est sur une hauteur, puisqu'on domine d'une trentaine de mètres la vallée de la Vallière qui coule en contrebas du château. Et souvent, les amis de Madame de Sévigné lui écrivent, notamment Madame de Coulanges, en lui disant « Quittez vos humides rochers parce qu'elle a des rhumatismes. » Et elle lui répond « Humide vous-même. » Je ne sais pas ce qui se passe avec cette porte. Mais...
Stéphane Gauthier, dans quelles circonstances Madame de Sévigné arrive au Rocher ?
Alors, elle découvre les rochers pour la première fois l'année même de son mariage en 1644. Dans un premier temps, elle apprécie assez peu cette propriété, d'autant plus que son mari, pour avoir ses propres maîtresses à Paris, l'exile, comme elle l'écrit, en terre étrangère, au Rocher.
Qu'est-ce qui lui a plu ici ?
C'est avant tout le fait d'être maîtresse des lieux, puisqu'elle devient veuve très tôt. Donc elle est l'unique personne à pouvoir décider de ce qui va se passer au Rocher, puisque son fils est encore très jeune au moment du décès de son père. Et ce qui l'intéresse plus particulièrement, c'est la possibilité de développer le parc, le bois qui se trouve autour du château. Et ça, c'est vraiment ce qui l'anime. Elle écrit à sa fille que quelquefois elle n'arrive pas à s'endormir, qu'elle se réveille la nuit en pensant qu'elle aurait des tombereaux, des brouettes, qu'elle allait planter elle-même de petits arbres avec son chef jardinier Pilois, un personnage assez rustique, mais qu'elle apprécie beaucoup. Elle dit qu'elle l'apprécie plus que certains nobles qui ont conservé leur titre après la réformation de la noblesse bretonne. Elle est proche ici de la famille Duplessis d'Argentré, qui habite Argentré-Duplessis, donc aujourd'hui à 3-4 km du château des Rochers. Elle fréquente le comte et la comtesse Duplessis, mais également leur fille, mademoiselle Duplessis d'Argentré, qui n'est pas très jolie, qui est un peu sotte, qui a une coquetterie dans les yeux, et elle se moque énormément d'elle.
La divine Plessis est justement et à point toute fausse. Je lui fais trop d'honneur de daigner seulement en dire du mal. Elle joue toutes sortes de choses. Elle joue la dévote, la capable, la peureuse, la petite poitrine, la meilleure fille du monde. Mais surtout, elle me contrefait, de sorte qu'elle me fait toujours le même plaisir que si je me voyais dans un miroir qui me fit ridicule, et que je parlasse à un écho qui me répondit des sottises. J'admire où je prends celle que je vous écris. Vous ai-je dit qu'il y avait des demoiselles à Vitré, dont l'une s'appelle Mademoiselle de Croque-Oison, et l'autre de Kerborgne. J'appelle la Plessis Mademoiselle de Kerlouche. Ces noms me réjouissent. Je suis tout à vous, ma bonne, Et si vous m'aimez, ayez soin de votre santé.
Elle a beaucoup habité les rochers parce que elle y est venue 16 fois et elle est quelquefois restée 2 ans, même l'hiver. Hein. Elle allait beaucoup chez les voisins, elle recevait beaucoup. Et alors ce qui est curieux, c'est qu'elle a beaucoup aimé cette propriété qui n'était pas à elle, puisque c'était à son mari, et qui ne devait pas être quand même très drôle à l'époque parce que c'était sombre. Elle l'aimait beaucoup alors qu'elle avait d'autres propriétés en Bourgogne où elle n'allait pas. Elle y allait quand même de temps en temps parce qu'elle voyageait beaucoup. Même quand elle était ici, elle voyageait, elle allait à droite à gauche, elle recevait beaucoup, elle aimait se promener. Elle était toujours en promenade en réalité. Elle a énormément voyagé cette femme. Elle était autrefois, elle allait, non seulement elle a été à Grignan, 2 fois seulement d'ailleurs, pas beaucoup. Et elle a été à Vichy, elle a été un peu partout. Elle était assez hypochondriaque. Elle s'est beaucoup intéressée à sa santé. Et d'ailleurs, dans ses lettres, elle en parle beaucoup.
Nathalie Friedel, on a fait de Madame de Sévigné le parangon de la tendresse maternelle, ou alors, au contraire, une matrone intrusive et autoritaire, une amatrice de potins. On la renvoie finalement toujours à un féminin très stéréotypé. Est-ce que son œuvre souffre également de ce regard-là?
Oui, elle mérite mieux que ça. Elle s'est fait une place dans le monde des lettres du XVIIe siècle. Elle a gagné son titre d'auteur classique. Elle est une référence. Il n'y a pas de raison. Il faut la traiter en écrivain. Ce qu'elle voulait, c'était écrire. Elle voulait écrire. Elle a trouvé une voie à travers les lettres où c'était possible pour une femme de s'autoriser, d'être auteur. Les auteurs féminins au XVIIe siècle ne signent pas leurs œuvres. Il y a une vraie difficulté pour la femme à se poser en femme publique. Madame de Lafayette a pas signé la princesse de Clèves. Scudéry, au départ, c'est son frère qui signe ses romans pour elle. Bon, les lettres, par contre, on peut les signer. Et toute la correspondance un peu savante, mondaine, érudite de Sévigné des premières années qu'on conserve, parce qu'on en a beaucoup perdu, évidemment, elle signe de manière très variée. Elle signe M de Rabutin-Chantal. Elle signe Marie de Rabutin-Chantal. On trouve des signatures assez variées, mais c'est intéressant parce qu'il y a une revendication dans cette manière de signer ses écrits pour une femme, encore une fois.
Alors au XVIIe siècle, on a effectivement des usages épistolaires...
Cécile Lignereux.
...absolument massifs. On a peut-être sous-estimé la place de l'écriture épistolaire, ne serait-ce que dans le quotidien. Il existe toutes sortes de rituels sociaux, alors les lettres de recommandation, les lettres de condoléances, les lettres de félicitations, mais aussi les lettres de visite en cas d'absence. C'est donc un acte quotidien, courant, avec toute une série de pratiques normées, codifiées. Tout au long de la période d'Ancien Régime, de très nombreux manuels d'art épistolaire sont imprimés. Et ce sont de véritables best-sellers pour certains. On pense au manuel de Puget de la Serre, qui publie un secrétaire à la mode, un secrétaire de la cour, un secrétaire du cabinet. Et donc ce sont des petits livres utilitaires, de petits formats, que chacun a chez soi pour, au fil des occasions de la vie courante, s'aider. Donc il y a des modèles de lettres, il y a des consignes, des répertoires de formules. À l'évidence, elle n'a pas besoin de ce genre de manuel qui s'adresse plutôt peut-être à des bourgeois ou à des sphères moins cultivées. Mais elle retrouve, sans doute par une forme d'instinct, d'imprégnation culturelle, les consignes de ces manuels et les applique avec une aisance et une élégance qui justement l'ont fait passer à la postérité.
La relation avec sa fille est au cœur de la correspondance, mais... Cette correspondance, elle débute bien avant, mais elle va s'intensifier véritablement en 1671, au moment où sa fille part à Grignan suivre son mari.
Oui, c'est-à-dire qu'on voit dans, par exemple, la première année de correspondance, on voit Sévigné petit à petit poser le cadre en incitant sa fille à faire des relations, des récits détaillés, en l'encourageant à écrire de telle ou telle manière. Et puis, on a affaire à deux femmes qui partagent un sens de l'humour, qui partagent des goûts. Il y a une espèce d'émulation dans l'écriture, dans le partage des idées. Et puis ensuite, évidemment, l'accès à autre chose qui n'était pas complètement évident, la vie intime, en fait. Bon, c'est la grande découverte de Sévigné.
Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre. Je ne l'entreprendrais pas aussi. J'ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus. Et tous les pas qu'elle fait l'éloignent de moi. Je m'en allais donc à Sainte-Marie, toujours pleurant et toujours mourant. Il me semblait qu'on m'arrachait le cœur et l'âme. Et en effet, quelle rude séparation. Je demandais la liberté d'être seule. On me mena dans la chambre de Madame du Housset. On me fit du feu. Agnès me regardait sans me parler. C'était notre marché. J'ai passé jusqu'à 5 heures sans cesser de sangloter. Toutes mes pensées me faisaient mourir. J'écrivis à Monsieur de Grignan, vous pouvez penser sur quel ton. J'allais ensuite chez Madame de Lafayette qui redoubla mes douleurs par la part qu'elle y prit. Elle était seule et malade et triste de la mort d'une sœur religieuse. Elle était comme je la pouvais désirer. Monsieur de La Rochefoucauld y vint, on ne parla que de vous, de la raison que j'avais d'être touchée et du dessein de parler comme il faut à Mélusine.
Il est indéniable que les deux femmes avaient des tempéraments très différents. Bien sûr, nous n'avons plus les lettres de Madame de Grignan, mais on devine assez aisément la teneur de certaines missives. Sa mère est relativement exubérante, démonstrative, elle a un tempérament passionné, et sa fille, de multiples témoignages d'époque l'attestent, est plus froide, plus réservée, plus pudique. D'où des heurts, des malentendus, des reproches de part et d'autre. Il est possible de voir dans la relation affective qu'elle entretient avec sa fille une influence discrète mais indéniable de ce qu'on a appelé la galanterie. Donc dans les années 1640, autour de Mademoiselle de Scudéry, dont la carte de Tende reste l'emblème, il s'agit de proposer un modèle de relation humaine fondée sur l'harmonie, l'équilibre. Dans son roman Clélie, Madeleine de Scudéry inclut une carte destinée aux âmes d'élite qui seront capables de bien aimer, c'est-à-dire de faire preuve de tendresse. Pour atteindre la véritable tendresse, donc il y a 3 fleuves, 3 possibilités, notamment on peut y arriver par l'inclination, on peut y arriver par l'estime. Et puis il y a des dangers par exemple la jalousie, la négligence. Et au contraire, il y a des villages qui conduisent à la tendresse, sur cette vaste métaphore de l'itinéraire sentimental que constitue la tendresse. Par exemple, les petits soins, les grands services, les billets doux, l'assiduité. Voilà. Donc c'est tout un itinéraire sentimental que propose Madeleine de Scudéry. Madame de Sévigné s'empare peut-être du seul modèle sentimental qui s'impose à elle. C'est le modèle de sa jeunesse, c'est une forme d'idéalisme. Elle croit fermement à la possibilité de polir les relations humaines, d'embellir le quotidien, de calquer des relations sur des modèles idéalisés que sa fille acceptera plus ou moins, avec plus ou moins de facilité. On sent bien que Madame de Sévigné est obligée de réfréner ses épanchements pour ne pas importuner sa fille. Elle est obligée également de tempérer l'expression de ses inquiétudes à l'égard des problèmes de santé ou des problèmes financiers de Madame de Grignan. Toutes sortes d'actes de langage montrent les efforts que fait l'épistolière pour donner d'elle-même une image aimable, pas trop autoritaire ou intrusive. En cela, ces efforts sont conformes d'ailleurs aux consignes réitérées des manuels d'art épistolaire.
Elle ne renonce jamais aux compliments, elle ne renonce jamais aux conventions, mais elle a une façon de les détourner, de jouer avec, de trouver des espaces ou insérer d'autres choses. La vie matérielle, par exemple, C'est une des rares œuvres du XVIIe siècle où il est question d'accouchement, où il est question d'allaitement, d'éducation des enfants, de jardinage, que sais-je. Donc, c'est pas encore l'intériorité, parce que finalement, il n'y a pas de langue encore pour dire l'intériorité. Les grands sentiments, les passages où elle exprime sa passion, son désespoir, etc. Moi, je vois là ce qu'il y a de moins personnel dans les lettres. L'intime est ailleurs, il faut le chercher dans l'écriture au quotidien, dans ses lettres journal. Et ces ruptures de rythme, où tout d'un coup, on respecte plus le rythme épistolaire, qui serait, par exemple, commencer par la réponse à la lettre reçue, mais on commence par ce qui vient de se passer ou ce qui est en train de se passer.
À Madame de Grignan, au Rocher, mercredi 8 janvier 1676. Voici le vrai jour de vous conter mon songe. Vous saurez, ma très chère, que vers les 8 heures du matin, après avoir songé à vous la nuit sans ordre et sans mesure, il me sembla bien plus fortement qu'à l'ordinaire que nous étions ensemble, et que vous étiez si douce, si aimable et si caressante pour moi, que j'en étais toute transportée de tendresse. Et sur cela je m'éveille, mais si triste et si oppressée d'avoir perdu cette chère idée, que me voilà à soupirer et à pleurer d'une manière si immodérée que je fus contrainte d'appeler Marie, et avec de l'eau froide et de l'eau de la reine de Hongrie, m'ôter le reste de mon sommeil et débarrasser ma tête et mon cœur de l'horrible oppression que j'avais. Cela me dura un bon quart d'heure, et voilà tout ce que je vous en puis dire, sinon que jamais en ma vie je ne m'étais trouvée en un tel état. Vous remarquerez, ma bonne, que voici le jour où ma plume est la maîtresse.
Peut-être on peut évoquer ces hôtels qu'elle a habités et qui n'existent plus,
oui.
Puisqu'après la mort de son mari, elle va notamment vivre chez sa tante Henriette de Coulanges, qui est la veuve de Philippe de Coulanges.
Parce qu'en fait, au décès de son mari, elle va en effet très rapidement occuper un logement rue Charlot,
Anne Forêt-Carlier,
puis ensuite s'établir, alors là de manière beaucoup plus durable, puisqu'elle va y rester 17 années, avec sa tante Henriette de Coulanges, qui elle aussi est veuve. Donc les deux veuves partagent un même logement, chacune ayant bien sûr son autonomie, mais permettant de continuer à rassembler les membres de la famille. Ça, c'est très très important. C'est une notion un peu perdue de nos jours, mais effectivement, les logements sont souvent intergénérationnels dans les familles. Elle occupe cette habitation de la rue du Temple jusqu'en 1668. Et là, elle va partir pour un logement beaucoup plus important. Il y a une raison à cela, c'est que sa fille, lorsqu'elle vient en séjour auprès de sa mère, il faut que sa mère puisse la recevoir honorablement. Donc, il est nécessaire pour la marquise de Sévigné de se trouver un logement beaucoup plus important. Et c'est ce qui va nous conduire à l'hôtel Carnavalet. Donc, je me propose maintenant de nous diriger vers l'hôtel Carnavalet. Là, on est dans les lieux qu'elle a connus et qu'elle a particulièrement appréciés. Un corps de logis sur rue avec la porte cochère qui ouvre sur une cour avec les communs de part et d'autre. Le corps de logis principal qui, lui, du coup, se trouve entre cour et jardin, et le jardin qui fait suite. Alors, elle en parle abondamment dans sa correspondance à sa fille. Et par exemple, le 7 octobre 1677, elle s'exclame avec passion
Dieu merci, nous avons l'hôtel de Carnavalet. C'est une affaire admirable. Nous y tiendrons tous et nous aurons le bel air. Comme on ne peut pas tout avoir, il faut se passer des parquets et des petites cheminées à la mode, mais nous aurons du moins une belle cour, un beau jardin, un beau quartier et de bonnes petites filles bleues. En effet, l'hôtel de Carnavalet était mitoyen d'un couvent occupé par l'ordre des filles bleues, et d'ailleurs la rue à l'époque portait ce nom de rue des filles bleues.
Ce mardi 12 octobre 1677... « Nous déménageons, ma mignonne. Et parce que mes gens feront mieux que moi, je les laisse tous ici et me dérobe à cet embarras et au sabbat inhumain de Madame Bernard qui m'éveille dès 6 heures avec ses menuisiers. Ses adieux consolent de la séparation. » Ma bonne, nous avons une contestation d'Acqueville et moi. Il veut que vous soyez avec moi dans le bel appartement. Moi, je voulais que vous fussiez en bas, au-dessous de moi. Où il y a toutes les mêmes pièces, afin d'être moins cousu et moins près de moi. Voici ses raisons contre les miennes. Il dit que le haut est bien plus clair et plus propre que le bas, il a raison. Il y a une grande salle commune que je meublerai, puis un passage, puis une grande chambre, c'est la vôtre. De cette chambre, on passe dans celle de Madame de Lillebonne, c'est la mienne. Et de cette grande chambre, on va dans une petite que vous ne connaissez pas. Qui est votre panier, votre grippe minou, que je vous meublerai et où vous coucherez si vous voulez. Monsieur de Grignan sera au bout de la salle, mon fils en bas sans que la grande salle soit meublée, le bien bon sur une petite aile très jolie. Voilà comme le grand d'Acqueville a tout rangé. Si vous aimez mieux le bas, vous n'avez qu'à le dire, ma bonne, on le fera ajuster. Votre décision fera notre arrangement, car cette maison est tellement grande que ce n'est pas une affaire de loger encore mon fils. Il y a 4 remises de carrosses, on peut en faire 1/5, l'écurie pour 18 chevaux, je crois que nous serons fort bien. Adressez-y désormais vos lettres, à l'hôtel de Carnavalet, rue des Filles Bleues. Voilà l'affaire.
Qui est Madame de Sévigné pour vous? C'est une figure tutélaire un peu du musée Carnavalet?
Oui, certainement. L'hôtel Carnavalet se trouve à présent situé dans la rue de Sévigné. La dénomination évidemment n'est pas d'origine, c'est une appellation qui lui a été donnée à cause de la célébrité de Madame de Sévigné et à cause de la présence de l'hôtel Carnavalet dans cette rue.
Jean-Marie Bruzon.
Et d'ailleurs le choix d'installer un musée historique de la ville de Paris dans l'hôtel Carnavalet a certainement été dicté par la présence de Madame de Sévigné dans cet hôtel, qui à l'époque était évidemment beaucoup plus connue qu'elle ne l'est aujourd'hui, beaucoup plus lue, et qui était vraiment une célébrité incontournable. L'hôtel a été acheté par la ville en 1866, et le musée n'a été ouvert que beaucoup plus tard, à cause des événements de la commune qui ont entravé un petit peu l'ouverture qui n'est intervenue qu'en 1880.
Il y a des traces véritablement de la ville, Madame Sévigné?
Alors en fait, non. Il y a 2 pièces qui conservent des boiseries qui ont été faites pour l'hôtel et probablement plutôt vers 1700 d'après leur style. Donc ce sont des boiseries qui ont été mises en place après le départ, après la mort de Madame de Sévigné. Néanmoins, à l'époque, comme on voulait absolument y trouver des traces de son passage, on a considéré que ce qu'on appelle ici le salon d'angle, donc une des 2 pièces qui conserve ces boiseries anciennes, avait été le salon où elle recevait. Et pour s'en persuader, peut-être, on a rajouté même sur les intrados des fenêtres les armes Sévigné-Rabutin pour montrer que c'était le salon qu'elle avait occupé. Donc c'est une espèce de supercherie au fond.
Alors, Charles. D'ailleurs, c'était un type charmant. Charles, c'était son fils. C'était un garçon très gentil qui écrivait pas mal du tout. Et alors, bon, il avait du succès, il a fait des erreurs, et quand on lui reprochait son succès, il disait, c'est pas ma faute si on m'a fait si beau. Et là, il est pas mal, hein.
Yvelin de Ternay.
Il a eu la même maîtresse que son père.
Ninon de l'Enclos.
Ninon de l'Enclos. Mais ça n'a pas duré ni pour l'un ni pour l'autre, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent par rapport aux exigences de Madame de l'Enclos.
Celui-là en face, ça c'est la comtesse, j'ai confondu, mais elle se ressemble. Ça c'est la comtesse de Grignan, j'avais cru que c'était la marquise.
Non, c'est la comtesse, oui. Elles se disputaient d'ailleurs. Hein. Quand elles étaient ensemble, à Carnavalet par exemple, les tensions étaient tellement fortes qu'elles se passaient leurs petits mots juste sous la porte pour ne pas s'affronter.
La relation donc, de Madame de Sévigné avec Madame de Grignan, ce n'est pas une relation exclusive. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à rétrécir ça, un espèce de face-à-face, d'épanchement des cœurs, avec un point de vue psychologisant. Il est rare qu'elle soit seule quand elle écrit. Et les lettres bruissent des conversations. Elle vient de quitter des amis, un dîner, et on entend encore l'écho des conversations. Il y a des interpolations dans ces lettres. Tout à coup, un proche, un ami, son fils lui prend la plume des mains et puis vient insérer un petit mot à l'intérieur de la lettre. On est dans ce rapport de connivence. Je pense que l'idéal de Sévigné, c'est le phalanstère. C'est de vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Et à plusieurs reprises dans sa vie, elle a réussi à reconstituer ça. Elle le fait à Carnavalet. Elle est ravie quand elle découvre cet hôtel parce qu'ils vont pouvoir y vivre tous ensemble, même si finalement ça ne s'est produit qu'à des rares périodes. Et la lettre reconstitue ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment une illusion de proximité. Je vous parle et vous me répondez. Tout à coup, on a l'impression qu'elles sont au téléphone.
Voici, ma bonne, un changement de scène qui vous paraîtra aussi agréable qu'à tout le monde. Je fus samedi à Versailles avec les Villars. Voici comme cela va. Vous connaissez la toilette de la reine, la messe, le dîner. Mais il n'est plus besoin de se faire étouffer pendant que leurs majestés sont à table. Car à 3 heures, le roi, la reine, monsieur, madame, mademoiselle, tout ce qu'il y a de prince et princesse, madame de Montespan, toute sa suite, tous les courtisans, toutes les dames, enfin, ce qui s'appelle la cour de France, se trouve dans ce bel appartement du roi que vous connaissez. Tout est meublé divinement, tout est magnifique. On ne sait ce que c'est que d'y avoir chaud. On passe d'un lieu à l'autre sans faire la presse nulle part. Je saluai le roi, comme vous me l'avez appris. Il me rendit mon salut comme si j'avais été jeune et belle. La reine me parla tout aussi longtemps de ma maladie que si c'eût été une couche. Elle me dit encore quelques mots de vous. Monsieur le duc me fit 1000 de ses caresses, à quoi il ne pense pas. Le maréchal de Lorge m'attaqua sous le nom du chevalier de Grignan. Enfin, tutti quanti. Vous savez ce que c'est de recevoir un mot de tout ce qu'on trouve en chemin. Madame de Montespan me parla de Bourbon, elle me pria de lui conter Vichy, et comme je m'en étais trouvée, elle me dit que Bourbon, au lieu de lui guérir un genou, lui a fait mal aux dents. C'est une chose surprenante que sa beauté. Sa taille n'est pas de la moitié si grosse qu'elle était, sans que son teint, ni ses yeux, ni ses lèvres en soient moins bien.
Lorsqu'on lit des lettres de l'époque, on peut diagnostiquer qu'il s'agit de Madame de Sévigné. C'est lorsque l'on compare aux lettres de Madame de Lafayette, aux lettres de Madame de Maintenon, aux lettres de Madame de Lavallière, chacune a son style, bien sûr. Et celui de Madame de Sévigné est particulièrement reconnaissable. Il y a à la fois cette forme d'idéalisme sentimental et, bien sûr, tout cela nimbé d'une sorte de naturel. Alors, on a beaucoup parlé du naturel, de l'aisance, de la facilité, de la négligence. Ce sont les idéaux stylistiques du grand siècle, et Madame de Sévigné les incarne à la perfection.
Elle a une manière de lire les textes, une manière d'écrire les événements qui est unique, qui la singularise. Il suffit de prendre le même événement raconté dans la Gazette ou dans ce qu'on appelait alors les lettres de nouvelles, parce que ça se faisait beaucoup pour les Parisiens d'envoyer en province, d'envoyer à leurs amis, leurs relations, des lettres de nouvelles. Elle a des concurrents là-dessus, c'est Dagueville, c'est Bigorre, les petits Bigorre. Sévigné, c'est un autre monde.
Enfin, c'en est fait, la Brinvilliers est en l'air. Son pauvre petit corps a été jeté, après l'exécution, dans un fort grand feu et les cendres au vent, de sorte que nous la respirons. Et par la communication des petits esprits, il nous prendra quelque humeur empoisonnante dont nous serons tous étonnés. Elle fut jugée dès hier. Ce matin, on lui a lu son arrêt, qui était de faire amende honorable à Notre-Dame et d'avoir la tête coupée, son corps brûlé, les cendres au vent. On l'a présentée à la question. Elle a dit qu'il n'en était pas besoin et qu'elle dirait tout. En effet, jusqu'à 5 heures du soir, elle a conté sa vie, encore plus épouvantable qu'on ne le pensait. Elle a empoisonné 10 fois de suite son père. Elle ne pouvait en venir à bout, ses frères et plusieurs autres. Et toujours l'amour et les confidences mêlées partout. Elle n'a rien dit contre Pénautier. Après cette confession, on n'a pas laissé de lui donner la question dès le matin, ordinaire et extraordinaire. Elle n'en a pas dit davantage. À 6 heures, on l'a menée, nue, en chemise et la corde au cou, à Notre-Dame, faire l'amende honorable. Et puis, on l'a remise dans le même tombereau où je l'ai vue, jetée à reculons sur de la paille, avec une cornette basse et sa chemise, un docteur auprès d'elle, le bourreau de l'autre côté. En vérité, cela m'a fait frémir. Ceux qui ont vu l'exécution disent qu'elle a monté sur l'échafaud avec bien du courage. Pour moi, j'étais sur le pont Notre-Dame, avec la bonne d'Escard. Jamais il ne s'est vu tant de monde, ni Paris si ému, ni si attentif. Et demandez-moi ce qu'on a vu, car pour moi, je n'ai vu qu'une cornette. Mais enfin, ce jour était consacré à cette tragédie. J'en saurai demain davantage, et cela vous reviendra.
Madame de Sévigné, comme beaucoup de femmes de son temps, est une croyante sincère, elle a une foi fervente et immanquablement, comme beaucoup de personnes de son milieu, elle est attirée par l'augustinisme, par les idées de Port-Royal. De nombreux amis ont des tendances jansénistes dans son milieu. Et dans le contexte de cette relation très forte avec sa fille, elle ne pouvait que repérer ce que l'augustinisme nomme l'idolâtrie, lorsque l'on préfère la créature au créateur, lorsque l'on a trop de liens, d'attaches, d'occupations terrestres qui détournent de Dieu. Et Madame de Sévigné s'empare en quelque sorte de cet imaginaire théologique pour exprimer la force de ses sentiments. Donc il y a une rencontre entre d'une part un imaginaire théologique et d'autre part, une expérience affective. Effectivement, elle vit comme une rivalité entre Dieu et sa fille, ses sentiments maternels. Elle a les lectures de son milieu. Là encore, il ne faut pas surestimer l'originalité de Madame de Sévigné. Effectivement, elle a une prédilection pour Pierre Nicole, donc des écrits de morale chrétienne, qui attirent l'attention sur l'intériorité, les replis du cœur, de l'âme, pour la vie intérieure. Pour aussi la démystification des prétentions humaines. Le père Bourdaloue, qu'elle admire tant, donc prédicateur célèbre, parle justement du péché d'idolâtrie et prend pour exemple les relations entre parents et enfants. C'est-à-dire que les enfants sont les premiers à détourner les parents de Dieu.
À Livry, mercredi 29 avril 1671. Depuis que j'ai écrit ce commencement de lettre, j'ai fait un fort joli voyage. Je partis hier assez matin de Paris, j'allais dîner à Pomponne. J'y trouvais notre bonhomme qui m'attendait. Je n'aurais pas voulu manquer à lui dire adieu. Je le trouvais dans une augmentation de sainteté qui m'étonna. Plus il approche de la mort, et plus il s'épure. Il me gronda très sérieusement, et transporté de zèle et d'amitié pour moi, il me dit que j'étais folle de ne point songer à me convertir, que j'étais une jolie païenne, que je faisais de vous une idole dans mon cœur, que cette sorte d'idolâtrie était aussi dangereuse qu'une autre, quoiqu'elle me parût moins criminelle, qu'enfin je songeasse à moi. Il me dit tout cela si fortement que je n'avais pas le mot à dire. Enfin, après 6 heures de conversation très agréable, quoique très sérieuse, je le quittai et vins ici, où je trouvais tout le triomphe du mois de mai.
La lettre, c'est aussi un lieu de pouvoir. C'est aussi un lieu où il y a des enjeux d'influence politique. Que ce soit dans les correspondances de Lafayette, de Maintenon, de Sévigné, la question économique est centrale. Ce sont des femmes qui sont à la tête de grandes maisons, bon, quand c'est pas à la tête de l'État, et qui ont à gérer des biens dans des conditions difficiles. Sévigné, c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour rester à flot. Elle a hérité des dettes de son mari. Ensuite, son oncle Coulanges, qui était son conseiller financier, l'a aidé à rétablir un peu la situation. Et puis ensuite, il y a eu le mariage, elle a dû établir ses enfants, et elle s'est à nouveau endettée. Et elle a passé le reste de sa vie à rembourser. Le motif, la raison des séjours au Rocher, c'est un motif économique. Elle y va pour gérer sur place, parce que c'est sa source de revenus, et aussi pour économiser. Quand elle est au Rocher, elle dépense moins que quand elle est à Paris. Et puis Sévigné est très impliquée aussi dans les affaires de Provence. Avec sa fille, il n'est pas seulement question de sentiments, il est question de la situation politique complexe dans laquelle les Grignons se retrouvent en Provence, avec des luttes de pouvoir, avec un gouverneur qui est absent, qui est Vendôme, mais qui est trop jeune, il a 16 ans. Donc c'est finalement Grignon qui se retrouve avec les fonctions de gouverneur en Provence sans en avoir les moyens. Donc il y a de gros problèmes économiques qui se posent aussi, des rivalités avec l'évêque de Marseille. Et Sévigné se passionne en fait pour ça. Elle fait du lobbying à Paris, c'est-à-dire qu'elle écrit à ses relations pour essayer d'obtenir des faveurs, des moyens d'avancement, etc.
Ses lettres occupent une place tout à fait privilégiée dans notre panthéon littéraire, mais rien ne prédisposait ses lettres à être publiées. Et d'ailleurs, elles ont été détruites par la petite fille de Madame de Sévigné, qui considérait que c'était trahir des secrets de famille et qu'il ne fallait pas divulguer ce genre de correspondance. Il ne faut donc surtout pas raisonner avec des catégories anachroniques en disant « c'est un texte littéraire, la littérature n'existe pas, on parle de belles lettres ». Elle fait œuvre d'écrivain, les écrivains n'existent pas, pas en ces termes, elle écrit simplement à sa fille. Il ne faut pas lui attribuer de projet esthétique, de vocation artistique, puisque ce n'est pas en ces termes-là que les choses se sont passées. En revanche, il est indéniable que Madame de Sévigné avait un don pour le style, et tout ça fait qu'on a abouti à la consécration d'un objet littéraire complètement atypique.
Nathalie Friedel, comment elle se compose cette correspondance? La correspondance qu'on a aujourd'hui, les trois volumes Pléiade?
La composition est chronologique. On a une trentaine de lettres, finalement assez peu, qui sont conservées de la période qui précède la séparation. Et puis ensuite, la très grande majorité des lettres, c'est l'échange avec Madame de Grignan. On a quand même des commerces, alors ce qui sont souvent qualifiés de secondaires, mais on voit que c'est un peu biaisé. Une correspondance intéressante avec les Guitaux, qui sont la connexion, le lien de Sévigné avec la Bourgogne. Et là, ce sont des lettres d'affaires intéressantes, des lettres assez fermiers aussi. On découvre une autre Sévigné, donc très impliquée dans la gestion de ses biens, dans les affaires. Les lettres à Coulanges, la correspondance avec Bussy qui est importante et qu'on conserve parce que Bussy l'a soigneusement conservé pour la publication de sa propre correspondance. On ne conserve aucune lettre à son fils, alors qu'on sait qu'elle lui a écrit.
Pouvez-nous dire quelques mots de Bussière à Butin?
Très apprécié de Madame Sévigné, puisqu'ils ont eu vraiment des échanges épistolaires assez enjoués.
Jean-Marie Bruson.
C'est aussi par le biais de la publication de ses mémoires et de sa correspondance qu'un petit lot de lettres de Madame de Sévigné a été connu du public. Je ne sais plus qui disait à la lecture de cette correspondance que finalement, les lettres de Madame de Sévigné, la cousine, étaient beaucoup plus intéressantes que celle du cousin. Et c'est sans doute cela qui a contribué à l'idée de publier des lettres de Madame de Sévigné elle-même. Et Bussy fait copier les lettres de sa cousine. Et c'est grâce à ces copies qu'on a pu restituer un texte beaucoup plus proche des lettres originales, détruites par Madame de Sévigné. beaucoup plus proche que les textes des éditions du XVIIIe siècle qui sont absolument retravaillés, coupés. Enfin, il y a vraiment un problème d'édition au XVIIIe siècle. Ce qui est curieux, c'est que ce qui fait l'attrait des lettres de Madame de Sévigné, leur naturel, leur spontanéité, est aussi ce qu'on ne peut pas s'empêcher de corriger pour se rapprocher d'une conformité qui est générale. Et du coup, les lettres perdent de leur caractère. Et malheureusement, comme Madame de Simian a fait détruire les originaux, aujourd'hui, pour retrouver le texte original des lettres à Madame de Grignan, on a beaucoup de difficultés. Et les copies faites pour Bussy ont permis quand même si elles ne sont pas d'une parfaite exactitude, permettent quand même de se rapprocher beaucoup plus des textes originaux. On n'a que très peu de lettres écrites à Madame de Grignan, originale. Et quand on les confronte à toutes les éditions du XVIIIe siècle, il n'y en a pas une seule qui soit reproduite exactement. Il faut vraiment attendre le XXe siècle pour que quelqu'un essaye, en l'occurrence Roger Duchesne, qui a vraiment essayé de retrouver tous les éléments qui permettaient de se rapprocher du texte original.
Alors je voulais choisir une lettre. Ah, mais celle-ci.
Oui, alors justement, c'est les éditions 18e.
Il y a trois heures que je fuis.
Ma chère bonne, il y a trois heures que je suis partie de Paris dans le dessin de ma trie, jusque j'ai le soir du monde et du bruit, je prétends. Mais voyez, ma chère bonne, il y a trois heures que je suis ici. Il y a trois heures que je suis ici, ma chère enfant. Dans un tout petit paragraphe, on a une dizaine de transformations qui ne sont pas des transformations de fond, mais qui sont des transformations de forme.
Qui elle est pour vous, Madame de Sévigné? Qu'est-ce qui reste d'elle? À vos yeux, vous qui l'avez tant fréquenté, Nathalie Fredel.
Une femme brillante, un grand écrivain, et un grand écrivain qui a su surmonter les obstacles qui étaient ceux de sa condition, de femme en particulier, pour s'inscrire dans le paysage littéraire, pour laisser une œuvre, même si ce n'était pas l'intention de départ, en fait, c'est ce qui s'est passé, dans un genre qu'elle a rénové. Elle a fait autre chose. Il suffit de lire les recueils des plus beaux auteurs du XVIIe siècle qui fleurissaient, parce que c'était vraiment le genre, un genre très prisé, pour mesurer tout le chemin qu'elle a parcouru par rapport à ses modèles, par rapport à ses conventions, par rapport à ce qu'était le genre épistolaire comme genre littéraire. I was sleeping, gently napping, when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Avec Nathalie Fredel, de l'Université Wilfrid Laurier à Waterloo, Anne Fauré-Carlier, Musée des Arts Décoratifs, Cécile Lignereux, de l'Université Stendhal Grenoble III, Jean-Marie Bruzon, au Musée Carnavalet, Stéphane Gauthier et Yves-Alain de Ternay, au Château des Rochers-Sévigné. Lecture, Violaine Schwartz. Prise de son, Yves Lehors. Mixage, Alain Joubert. C'était Une vie, une œuvre, Madame de Sévigné. Christelle Le Polothèque, Ghislaine David. Oh, I'm glad to hear from you all. I am calling, yes, I'm calling just to speak to you.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast et commentaires, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec l'impressionniste qui a peint, comme on photographie, Gustave Caillebotte. Mais dans un instant, on retrouve Christophe Onodibio et le temps des écrivains.